Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 3, chapitre 8, sommaire. Suite. On ne peut nier l'existence de l'infini sans arriver à des conséquences absurdes. Le temps, les grandeurs et les nombres sont infinis. Double existence de l'infini, en puissance et en acte. Véritable notion de l'infini, qui est toujours en puissance et n'est jamais en soi et en acte. Il est également par addition et par division ou retranchement. Les deux infinis de Platon. Paragraphe 1. D'un autre côté, si l'on nie absolument l'existence de l'infini, on ne se crée pas moins d'impossibilités. Car il faudrait alors que le temps eût un commencement et une fin. Il faudrait que les grandeurs ne fussent pas divisibles en grandeurs et que le nombre ne fût pas infini. Paragraphe 2. Mais comme d'après les considérations qui viennent d'être présentées, il semble également impossible que l'infini soit et ne soit pas, il faut évidemment en conclure qu'en un sens, l'infini existe et qu'en un sens, il n'existe point. Paragraphe 3. Être peut signifier tantôt être en puissance et tantôt être actuellement. Paragraphe 4. Et l'infini peut se former également soit par addition, soit par retranchement. Paragraphe 5. Nous avons déjà démontré que la grandeur en acte ne peut être infinie, mais elle peut l'être sous le rapport de la divisibilité, car il est aisé de réfuter la théorie des lignes insécables. Reste donc que l'infini existe en puissance. Paragraphe 6. Mais quand on dit en puissance, on ne doit pas prendre cette expression dans le sens où l'on dit par exemple que si telle matière peut devenir une statue, cette matière sera effectivement une statue. Et l'on ne doit pas croire qu'il y a de même un infini qui puisse exister actuellement. Mais comme le mot « d'être » a plusieurs acceptions, il faut comprendre que l'infini peut être de la même manière qu'est le jour ou qu'est la période des Jeux olympiques, parce que, sans cesse, il devient autre et toujours autre. Car pour ces dates solennelles des Jeux, on peut distinguer aussi la puissance et l'acte. L'on compte les Olympiades à la fois par les Jeux qui peuvent avoir lieu et par ceux qui ont lieu en effet actuellement. Paragraphe 7. Mais évidemment, l'infini est tout autrement dans le temps et dans la succession. Par exemple, des générations humaines, qu'il naît dans la divisibilité des grandeurs. Paragraphe 8. D'une manière générale, l'infini existe en tant qu'il peut toujours être pris quelque chose d'autre et de toujours autre, et que la quantité qu'on prend, bien que toujours finie, n'en est pas moins toujours différente et toujours différente. L'infini n'est donc pas à considérer comme quelque chose de spécial et de précis. Un homme, par exemple, une maison. Mais il faut comprendre l'existence de l'infini comme on dit que sont le jour ou l'Olympiade, auquel l'être n'appartient pas comme étant telle ou telle substance, mais qui sont toujours à devenir et à périr, limités et finis sans doute, mais étant toujours autre et toujours autre. Paragraphe 9. Mais il y a cette différence en ce qui concerne les grandeurs, que le phénomène a lieu, la quantité qu'on a prise subsistante et demeurant, tandis que pour les générations successives des hommes et pour le temps, ils s'éteignent et périssent, de façon qu'il n'y ait jamais d'interruption ni de lacune. Paragraphe 10. Quant à l'infini par addition, il en est à peu près de même que pour l'infini par division, car soit une quantité finie, l'infini par addition s'y produit à l'inverse. En tant qu'on voit cette quantité finie, divisée à l'infini, il paraîtra qu'on ajoute indéfiniment à la quantité déterminée. En effet, si dans une grandeur finie, on prend une partie qui reste toujours déterminée et que l'on continue de prendre dans la même proportion, sans prendre une grandeur constamment égale de la grandeur entière, on n'épuise pas le fini. Mais on l'épuisera si l'on accroît la proportion de telle sorte qu'on prenne toujours la même quantité, parce que toute quantité finie doit finir par s'épuiser, si on lui ôte toujours une quantité finie, quelle qu'elle soit. Paragraphe 11. L'infini n'existe pas si on le considère autrement que je ne le fais ici. Mais il est de la façon que je viens de dire. La notion qu'il faut s'en faire, c'est qu'il est en puissance par divisibilité ou retranchement. Et il n'est en acte que comme y est le jour, comme y est l'Olympiade. Il est en puissance comme la matière. Il n'est jamais en soi comme le fini. Pour ce qui regarde l'addition, l'infini y est en puissance de la même façon, à peu près, où nous entendons qu'il y est aussi dans la division, attendu qu'il serait toujours possible d'en prendre quelques quantités nouvelles en dehors de ce qu'on a déjà. Paragraphe 12. Cependant, l'infini par addition ne dépassera point la grandeur finie tout entière, de même que dans la division, il dépasse toujours la quantité finie en étant plus petit qu'elle. Par conséquent, surpasser toute la grandeur finie par addition successive n'est pas même possible en puissance, puisque l'infini en acte n'existe pas, cumule attributs et accidents, dans le sens où les physiciens regardent comme infini le corps qu'ils imaginent en dehors du monde, et dont la substance est l'air ou tel autre élément analogue. Mais s'il ne se peut pas qu'un corps sensible de ce genre soit infini en acte, il est évident que l'infini ne peut pas davantage être en puissance par addition, si ce n'est à l'inverse de la division, ainsi qu'on vient de le dire. Paragraphe 13. Si donc Platon a également reconnu deux infinis, c'est que l'infini semble tout aussi bien se produire par l'addition, qui se développe sans cesse, que par le retranchement, qui peut de même être infini. Paragraphe 14. Il est vrai qu'après avoir admis ces deux infinis, Platon n'en fait aucun usage, car selon lui, dans les nombres, il n'y a pas d'infini par retranchement, puisque l'unité est à ses yeux ce qu'il y a de plus petit. Et il n'y en a pas davantage par accroissement, puisqu'il ne compte plus le nombre au-delà de la décade. Chapitre 9. Sommaire. Suite. Réfutation des théories antérieures. Véritable définition de l'infini opposée à la définition vulgaire. Parménide et Mélissus. Paragraphe 1. Il se trouve que l'infini est tout le contraire de ce que disent nos philosophes, car l'infini n'est pas du tout ce en dehors de quoi il n'y a rien, mais il est précisément ce qui a perpétuellement quelque chose en dehors. Paragraphe 2. La preuve, c'est qu'ils qualifient eux-mêmes d'infini les anneaux qui n'ont pas de chaton, parce qu'on peut toujours prendre un point en dehors de celui auquel on s'arrête. Mais ce n'est là qu'une espèce de similitude qu'ils peuvent employer à leur gré. Ce n'est pas cependant une expression propre. Il faut bien, en effet, pour l'infini, que cette condition existe, et aussi que jamais le même point n'y soit repris. Or, il n'y a rien de pareil dans le cercle, et le point nouveau n'est autre que parce qu'on le prend à la suite d'un point qui précède. Donc l'infini est ce qui peut toujours, en dehors de la quantité qu'on a, fournir quelque chose qui soit une quantité nouvelle. Paragraphe 3. Au contraire, ce en dehors de quoi il n'y a plus rien peut s'appeler le parfait, le tout, l'entier, car on entend par le tout, par l'entier, ce à quoi rien ne manque en fait de partie. Par exemple, un homme complet et entier, un coffre entier et complet. Car de même que la définition s'applique à chaque objet particulier, elle s'applique aussi de même au terme propre et absolu. Et par exemple, le tout, l'entier, signifie ce en dehors de quoi il n'y a plus rien. Mais ce en dehors de quoi reste quelque chose qui lui manque n'est plus entier, quel que soit ce qui lui manque. L'entier et le parfait sont des termes absolument identiques, ou du moins, ils sont d'une nature bien voisine. Or, rien n'est parfait qui n'ait une fin, et la fin, c'est la limite. Paragraphe 4. Aussi doit-on trouver que Parménide était plus dans le vrai que Mélissus, car celui-ci disait que l'infini est l'entier, tandis que celui-ci prétendait que l'entier est limité et fini. De tous côtés, égal à partir du milieu. Car confondre l'infini avec le tout et avec l'entier, ce n'est pas précisément joindre un bout de fil à un autre bout de fil. Chapitre 10. Suite, complément de la définition de l'infini. Paragraphe 1. C'est qu'en effet, si l'on trouve une si haute importance à l'infini, qui, dit-on, embrasse toute chose et qui renferme tout l'univers en soi, c'est qu'il a bien quelque ressemblance avec un entier, avec un tout. Paragraphe 2. L'infini est, on peut dire, la matière de la perfection que peut recevoir la grandeur. Paragraphe 3. Il est l'entier, le tout en puissance, mais non point en acte. Paragraphe 4. Il est divisible, soit par le retranchement, soit par l'addition prise en sens inverse. Paragraphe 5. Il devient entier, si l'on veut, et fini non pas en soi, mais relativement à un autre terme. Paragraphe 6. À vrai dire, il ne contient pas, mais il est contenu en tant qu'infini. Paragraphe 7. Et ce qui fait qu'il est impossible de le connaître en tant qu'infini, c'est que la matière n'a pas de forme. Paragraphe 8. Donc, il est évident que l'idée de l'infini est plutôt renfermée dans la notion de partie que dans la notion d'entier et de tout, car la matière est une partie du tout, de l'entier, comme les reins est une partie de la statue dont il est la matière. Paragraphe 9. Du reste, si dans les choses sensibles et intelligibles, c'est le grand et le petit qui embrassent toutes choses, il faudrait aussi qu'ils embrassassent les intelligibles. Mais il est absurde et impossible que ce soit l'inconnu et l'indéterminé qui embrassent les choses et les fassent connaître en les déterminant. Chapitre 11. Suite. L'infini est plutôt le contenu que le contenant, et c'est la forme qui contient. Dans les nombres, on peut admettre l'infini par accroissement perpétuel. Dans les grandeurs, l'infini n'est qu'en division et en petitesse. Différence de l'infini dans les nombres et dans les grandeurs. Emploi de l'infini dans les mathématiques. L'infini est cause en tant que matière, opinion commune des philosophes. Paragraphe 1. Il est tout à fait rationnel que l'infini par addition semble ne pas pouvoir exister de manière à surpasser toute la grandeur, tandis qu'au contraire, l'infini semble pouvoir exister par division, car l'infini est contenu, lui aussi, tout comme la matière, à l'intérieur de l'être, et c'est la forme qui contient. Paragraphe 2. Il semble également conforme à la raison d'admettre que pour le nombre, il y a une limite dans le sens de l'extrême petitesse, et qu'en allant dans le sens de l'accroissement, on peut toujours dépasser un nombre, quelque grand qu'il soit. Tandis que pour les grandeurs, il semble tout au contraire que si l'on va en diminuant, on peut toujours dépasser une grandeur, quelque petite qu'elle soit, et qu'en augmentant, il n'est pas possible qu'il y ait de grandeur infinie. Paragraphe 3. Cette différence tient à ce que l'unité est indivisible, quelle que soit d'ailleurs cette unité. Et ainsi, par exemple, l'homme n'est jamais qu'un homme et ne peut être plusieurs hommes, tandis que le nombre est toujours plus que l'unité. Et il est un ensemble de quantités d'un certain genre. Il y a donc nécessité de s'arrêter à l'individu. 2, 3, etc. ne sont que des dénominations dérivées et paronymes. Et l'on en peut dire autant de tous les autres nombres. Paragraphe 4. Mais dans le sens de l'augmentation, il est toujours possible de penser un nombre plus grand parce que les divisions de la grandeur en deux sont toujours indéfiniment possibles. Par conséquent, l'infini est toujours en puissance et jamais en acte. Mais la quantité nouvelle qu'on imagine dépasse toujours toute quantité déterminée. D'ailleurs, ce nombre n'est pas indépendant et séparé de la division par deux. Et l'infinitude, loin de s'arrêter, devient et se forme sans cesse comme le temps et le nombre du temps. Paragraphe 5. C'est tout l'opposé pour les grandeurs. Le continu y est bien divisible aussi par partie infinie en nombre. Mais il n'y a pas d'infini dans le sens de l'accroissement, car il ne peut être en acte que tout juste autant qu'il peut être en puissance. Donc, puisqu'aucune grandeur sensible n'est infinie, il n'est pas possible que toute grandeur déterminée soit dépassée, car dès lors, il y aurait quelque chose qui serait plus grand que le ciel. Paragraphe 6. L'infini n'est pas identique pour la grandeur, pour le mouvement et pour le temps, comme le serait une seule et unique nature. Mais l'infini postérieur n'est dénommé que d'après celui qui le précède. Ainsi, le mouvement ne se comprend que s'il existe préalablement une grandeur dans laquelle il y a mouvement, ou altération, ou croissance, etc. Et le temps ne se comprend que par le mouvement. Paragraphe 7. Pour le moment, bornons-nous à employer ces idées. Plus tard, nous essaierons d'expliquer ce que sont chacune de ces choses et pourquoi toute grandeur est divisible en d'autres grandeurs. Paragraphe 8. Mais notre définition de l'infini ne porte aucune atteinte aux spéculations des mathématiciens en niant son existence de telle manière que sous le rapport de l'accroissement, il soit tout à fait irréalisable en acte. Car, à leur point de vue, les mathématiciens n'ont pas besoin de l'infini et ils n'en font aucun usage. Ils se contentent de toujours supposer la ligne finie aussi grande qu'ils le veulent. Or, on peut toujours, en conservant la même proportion que pour la grandeur la plus grande possible, diviser indéfiniment une autre grandeur aussi petite que l'on voudra. Ainsi, l'infini n'apporte en rien aux mathématiciens en ce qui regarde leur démonstration. Mais quant à la réalité de l'infini, elle n'est dans les grandeurs réelles qu'au sens où on l'a dit. Paragraphe 9. D'ailleurs, parmi les quatre espèces de causes admises par nous, il est clair que l'infini n'est cause que comme matière. Paragraphe 10. Son être, c'est la privation. Ce qui est et subsiste par soi, c'est le continu et le sensible. Paragraphe 11. Tous les autres philosophes ont ainsi que nous considéré l'infini comme matière, et c'est pour cela qu'ils ont un si grand tort de faire de l'infini le contenant et non pas le contenu. Chapitre 12. Suite et fin. Réfutation des arguments qui représentent l'infini comme déterminé. Se défier des arguments purement logiques. Regarder surtout aux réalités. Résumé de la théorie de l'infini. Paragraphe 1. Il nous reste à examiner les arguments qui font paraître l'infini, non pas comme étant simplement en puissance, mais comme étant aussi quelque chose de déterminé. De ces arguments, les uns n'arrivent pas à des conclusions nécessaires. Les autres peuvent être réfutés par des raisons décisives. Paragraphe 2. Ainsi, il n'est pas besoin que l'infini soit en acte un corps sensible pour que la génération des êtres puisse ne jamais défaillir, car il se peut fort bien que même le tout étant limité et fini, la destruction d'une chose soit réciproquement la génération d'une autre. Paragraphe 3. De plus, ce sont deux choses très différentes que le contact et la limitation. L'une est relative et dépendante, car tout ce qui touche quelque chose est touché et l'attribut d'une chose finie et limitée, tandis que l'autre, le limité, le fini, n'est pas relatif, et une chose quelconque ne peut pas, au hasard, toucher la première chose venue. Paragraphe 4. L'argument tiré de la pensée est insoutenable. L'accroissement excessif et l'excessive réduction ne sont pas dans l'objet. Ils ne sont que dans la pensée qui les suppose, car il est loisible à quelqu'un d'imaginer l'un de nous mille fois plus grand qu'il n'est en l'accroissant à l'infini. Et il ne suffit pas pour qu'une personne soit hors de la ville ou qu'elle ait une taille égale à la nôtre que quelqu'un le suppose. Mais il faut que cela soit, et la conjecture de ce quelqu'un n'est qu'un pur accident sans réalité. Quant au temps et au mouvement, ils ne sont infinis aussi bien que la pensée, qu'en ce sens que rien de ce qu'on en considère ne subsiste ni ne demeure. Paragraphe 6. Enfin, il n'y a de grandeur qui soit infinie par le retranchement, ni par l'addition que la pensée peut toujours en faire. Paragraphe 7. Mais arrêtons-nous, car nous avons dit de l'infini comment il est et n'est pas, et ce qu'il est. Fin du livre 3.